Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, le masque obligatoire partout à Marseille. Il faudra aussi poser son verre et ses couverts à 23h quand les bars et restaurants fermeront dans toutes les Bouches du Rhône. De nouvelles mesures pour tenter de contenir l'accélération de l'épidémie de Covid. 177 cas positifs pour 100 000 habitants, c'est un taux 5 fois supérieur à la moyenne nationale.
Les foyers épidémiques en hausse au travail. Sait-on quels secteurs sont plus propices aux contaminations? Réponse dans un instant.
Et comment faire face à la demande croissante de tests virologiques pour le Covid-19? Les laboratoires se disent dépassés, ils ont rendez-vous aujourd'hui au ministère de la Santé.
Quand une épidémie est éradiquée à l'échelle de tout un continent, c'est la polio qui s'éteint en Afrique grâce à des campagnes de vaccination au départ difficiles à mener.
Exemple au Nigeria avec des populations isolées, prises au piège des djihadistes de Boko Haram et d'autres publics sceptiques face au vaccin, vous l'entendrez.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour, Catherine, on va revenir sur les dégradations après la défaite du PSG. Quel maintien de l'ordre possible? Je poserai la question au sociologue Christian Mouana.
3304 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France contre 1955 avant-hier. 33 nouveaux foyers épidémiques ont été détectés. C'est une très légère hausse par ailleurs du nombre de patients en réanimation, 410 personnes. La situation est particulièrement préoccupante dans les Bouches-du-Rhône. C'est ce qu'estime le préfet du département qui a donc annoncé hier soir de nouvelles mesures pour tenter de contenir l'épidémie. Julien Pasqualini.
Les restaurants et les bars tout d'abord. À partir de ce soir, ils devront fermer de 23h à 6h du matin dans tout le département des Bouches-du-Rhône. Cela concerne aussi les commerces d'alimentation générale. Et puis autre mesure forte, le port du masque à l'extérieur devient obligatoire dans toute la ville de Marseille pour les personnes de plus de 11 ans. Jusqu'à présent, cela ne concernait que les 7 premiers arrondissements. À partir d'aujourd'hui, ce sera donc dans les 16 arrondissements de la ville. Ces mesures sont applicables jusqu'au 30 septembre, précise la préfecture, qui indique que les contrôles de police et de gendarmerie vont être renforcés pour veiller au respect de ces règles. De nouvelles règles décidées alors que les Bouches-du-Rhône font face à une forte accélération de l'épidémie de coronavirus, avec 131 cas pour 100 000 habitants dans le département, alors que la moyenne nationale est de 33 cas pour 100 000 habitants.
Et du côté des restaurateurs, certains ont l'impression de faire les frais de l'inconséquence des Marseillais et de touristes. Bernard Marty est à la tête de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône.
Si c'est véritablement le moyen qui nous permet de revenir à la normale le plus tôt possible, pourquoi pas? Nous, ce qu'on veut, c'est que si effectivement il y a un problème dans Marseille par rapport à la propagation de l'épidémie, il faut qu'à 23h, toute l'activité cesse, qu'il n'y ait pas de soirées sauvages sur les plages, qu'il n'y ait pas des soirées non réglementées qui s'opèrent à droite et à gauche, où le virus, lui, se développerait.
Bernard Marty, à la tête de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône. Nous serons à Marseille encore à 7h25 pour le reportage de la rédaction. Beaucoup de questions encore en suspens, cette fois dans les écoles, vous l'entendrez, en ce qui concerne l'accueil des élèves. À noter encore sur la question du masque obligatoire dans les écoles, sur les 13 régions de Métropole 4, ont à ce stade annoncé qu'elles fourniraient des masques à leurs collégiens et lycéens, et ce, après la confirmation de l'exécutif qu'ils n'en fournissent n'irait qu'aux plus précaires, malgré des appels pressants de l'opposition et de certains marcheurs. Nous en parlions déjà hier dans ce journal. Alors que la rentrée se prépare et à quelques jours de l'entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire en entreprise, masque obligatoire pour tout le monde dans les lieux clos, l'exécutif veut préparer des conditions optimales pour retourner au travail. C'était l'un des points qui était au cœur du Conseil de défense hier à l'Élysée. Le gouvernement a soumis au Haut Conseil de santé publique des questions relatives aux aménagements possibles du protocole. L'avis est attendu ce vendredi. Alors que le nombre de foyers épidémiques en milieu professionnel est en hausse, les services de l'État au travail comme à la santé sont mobilisés pour assurer le suivi épidémiologique. Mais y a-t-il des secteurs, des métiers qui sont plus propices que d'autres aux contaminations? A-t-on aujourd'hui d'ailleurs les outils et les connaissances pour documenter tout cela? Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Les services de la santé et du travail doivent travailler de concert pour établir de nouveaux indicateurs. Alors, que sait-on aujourd'hui des foyers épidémiques en milieu professionnel ?
Au travail, les foyers épidémiques sont en hausse. Dans son dernier rapport hebdomadaire, Santé publique France en recense 234 en entreprise publique ou privée entre le 9 mai et le 18 août, dont 88 toujours en cours d'investigation. Pour la première fois, Santé publique France donne plus de détails sur les secteurs concernés. Il cite l'hôtellerie-restauration, la réparation de voitures et l'industrie manufacturière, en particulier les abattoirs. Un tableau obtenu en croisant les informations sur les malades remontant des agences régionales de santé et celles des services déconcentrés du ministère du Travail, les directs, qui peuvent donner l'activité des employeurs via les codes NAF.
Et les autorités, Catherine, peuvent-elles aider à affiner le suivi ?
Eh bien, c'est tout l'enjeu. En présentant la nouvelle version du protocole sanitaire, le ministère du Travail a dit vouloir proposer des mesures adaptées à certains secteurs et filières, si dans le cas des abattoirs. Or, pour cela, encore faut-il identifier les conditions de travail spécifiques, puis investiguer sur d'éventuels liens avec la maladie. En somme, la construction d'indicateurs répond aujourd'hui à deux enjeux. L'objectif premier de Santé publique reste de repérer les situations à risque et de briser les chaînes de transmission de la maladie. Autrement dit, d'enclencher au bon endroit et au bon moment la règle tester, tracer, isoler. Ensuite, du point de vue de la santé au travail, proposer des actions spécifiques requiert de connaître les activités précises des malades. Dans un abattoir, découper de la viande ou être au standard, ce n'est pas la même chose. Or cela, les indicateurs actuels ne nous le disent pas. Au ministère, on le reconnaît, il faut encore améliorer les croisements de données et les conditions de collaboration des services de santé et du travail. Mais c'est aussi dans la capacité à aller investiguer dans les entreprises et collectivités concernées que dépendra notre connaissance des clusters au travail.
Entreprise et Covid, faut-il refermer l'open space ? Emmanuel Laurentin pose la question ce soir dans le temps du débat à partir de 18h20 sur France Culture. Et comment faire face à la demande croissante de tests virologiques pour le Covid-19 ? Depuis quelques jours, la France a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé en juin, soit 700 000 tests par semaine, mais les laboratoires de biologie se disent sous l'eau débordés face à la demande croissante. Aujourd'hui, leurs représentants ont donc rendez-vous avec le ministère de la Santé pour demander qu'on infléchisse la stratégie de dépistage, Sophie Becherel.
Depuis le 25 juillet, quiconque peut, sans ordonnance, se faire tester dans un laboratoire de ville, qui plus est, sans avancée d'argent. Résultat, un engorgement des laboratoires qui peinent à tenir le délai de 24 heures pour fournir le résultat du test. Lionel Baran est le président du syndicat des jeunes biologistes médicaux.
Dans certaines régions, on arrive encore à tenir les 24 heures, mais de plus en plus de régions et de laboratoires prennent le bouillon parce que la stratégie qui a été décidée ne cible pas toujours les bonnes personnes à dépister.
Les campagnes de dépistage massives sont montrées du doigt, les bons envoyés par centaines de milliers aux habitants de certains départements ou encore les tests généralisés décidés par les agences régionales de santé. Pour Lionel Baran, il faut prioriser les publics.
Il faudrait faire à toutes personnes qui ont des symptômes, puisqu'il y a encore des personnes qui ont des symptômes et qui ne se font pas dépister parce que c'est trop compliqué, que c'est trop loin ou qu'ils n'ont pas le rendez-vous à temps. Il y a aussi les personnes qui sont en contact avec des gens qui sont positifs, et enfin les personnes qui sont dans des situations particulières à risque. Je pense notamment aux gens qui reviennent de pays dans lesquels l'épidémie fait rage.
Pour tester au-delà de 700 000 personnes par semaine, jauge déjà atteinte, il faudrait plus de bras, des étudiants en médecine, des pompiers, des infirmiers. Quant à l'analyse des prélèvements, si les laboratoires de ville sont saturés, on pourra toujours se tourner vers la vingtaine d'hôpitaux qui ont reçu un automate d'analyse chinois. Ils tournent en sous-régime depuis que le nombre de malades a drastiquement chuté.
C'est une autre conséquence de la crise sanitaire, la chute spectaculaire du trafic aérien. Un quart seulement des vols habituels. En juillet, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris a presque baissé de moitié au premier semestre. Comment donc adapter les effectifs et les moyens ? La question est au cœur de négociations entre la direction d'ADP et les syndicats. De grands chantiers comme celui du terminal 4 à Roissy sont ralentis, voire remis en cause. En jeu également, un accord pour une activité partielle de longue durée, une baisse temporaire de certains gros salaires du groupe et des ruptures conventionnelles pour les salariés qui souhaiteraient quitter ADP.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, l'Afrique. On a officiellement fini ce matin avec la polio.
L'OMS l'a annoncé hier, plus aucun cas déclaré depuis 4 ans en Afrique. Plus aucun cas de poliovirus sauvage, cette maladie infectieuse et contagieuse qui touche surtout les enfants, qui s'attaque à la moelle épinière jusqu'à provoquer une paralysie totale. La polio a fait des ravages en Afrique et notamment au Nigeria, ce géant du continent avec ses 200 millions d'habitants. Le reportage de notre correspondant. Correspondante Lisa Fabian.
Cela fait 4 ans qu'aucun nouveau cas de poliomyélite infectieuse n'a été recensé au Nigeria. Les affrontements entre l'armée et le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays rendaient difficile la vaccination des populations isolées. Le docteur Anissour Sidik, spécialiste de la poliomyélite pour l'UNICEF.
It has been a tough journey.
Ça a été un long parcours. Nous avons très vite collaboré avec l'armée nigériane pour garantir la vaccination. Dès que l'armée libérait un terroriste des mains des insurgés de Boko Haram, les enfants sur place étaient vaccinés. On s'est aussi associé à des compagnies aériennes pour repérer les mouvements de population par image satellite.
Dans le nord du Nigeria, les campagnes anti-polio étaient déjà compliquées par des rumeurs et des préjugés sur ce vaccin, accusé d'être un moyen de contrôle des naissances dans la population musulmane. L'éradication de la maladie est donc une victoire attendue de longue date, selon le docteur Siddiq.
Les infrastructures dédiées à la poliomyélite vont pouvoir être transformées en centres de soins et les leçons que nous avons tirées de ce plan d'éradication de la polio vont servir pour éliminer d'autres maladies.
L'Afghanistan et le Pakistan sont désormais les deux seuls pays au monde à recenser encore des contaminations par le poliovirus sauvage.
Lisa Fabian à Lagos pour France Culture. L'armée israélienne revendique ce matin des frappes aériennes menées cette nuit contre des positions du Hezbollah au Liban en réponse à des tirs du mouvement chiite vers des soldats israéliens. Une troisième soirée de manifestation dans le centre-ville de Kenosha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Des affrontements sporadiques entre des manifestants et des forces de l'ordre. La colère ne retombe pas après que dimanche, deux policiers blancs ont tiré 7 coups de feu dans le dos d'un Afro-Américain de 29 ans. Jacob Blake, c'est son nom, tentait de remonter dans sa voiture où se trouvaient ses 3 enfants. La scène a été filmée au téléphone portable. Le père de famille est aujourd'hui grièvement blessé. Il restera sans doute paralysé, fait savoir sa famille, qui a tenu hier soir une conférence de presse. Et leur avocat, Ben Crump, a annoncé que la famille participerait ce vendredi à Washington à une marche prévue contre les violences policières et pour l'égalité raciale.
Shot at least 7 times.
On lui a tiré dessus à 7 reprises, dans le dos, à bout portant. C'est un usage brutal et excessif de la force, une absence d'humanité, comme ce que l'on a vu pour George Floyd. Alors oui, nous allons manifester ce vendredi pour changer la culture et le comportement des policiers en Amérique. Et on va faire cela avant de voir une autre personne afro-américaine, désarmée, tuée, sans aucune justification, ou grièvement blessée. On va faire ça avant de voir une autre ville incendiée lors de manifestations. Mais combien en faut-il d'autres ? Voilà pourquoi nous marcherons sur Washington, pour délivrer ce message. Nous aussi, nous aimons nos enfants et on ne veut plus avoir à enterrer nos enfants.
Ben Crump, l'avocat de la famille de Jacob Blake, nouvelle figure du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Des sacs de sable devant les portes, des fenêtres claquent murées, des évacuations en cours. Les habitants de Louisiane et du sud de Texas se préparent à affronter l'ouragan Laura, dont les vents ultraviolents devraient toucher les côtes américaines ce soir. Le temps de ce mercredi 26 août dans l'Hexagone, nuageux ce matin, mais de plus en plus ensoleillé au fil des heures. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 23 degrés du nord au sud.